Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Matthew Jody Burke est un ex-combattant d'arts martiaux qui a été déclaré coupable de violence conjugale à 3 endroits au moins au Canada. Dans l'Ouest canadien 2 fois, à Montréal. Donc, le modus operandi, ben, c'est assez simple. Il changeait de province quand il se faisait pogner et il pouvait recommencer. Brigitte Jobin est une des victimes de Jody Burke. Elle est montréalaise. Elle a fait un livre qui racontait son histoire, « Survivre jusqu'à demain ». Et là, son ex-conjoint est encore au palais de justice de Montréal parce que, rebondissement dans cette saga, il veut convaincre le tribunal de lui infliger une peine moins lourde. Pourquoi? Parce que il s'identifie désormais comme femme. Brigitte Jobin est en studio avec nous. Brigitte, salut.
Salut.
On s'était rencontrés à Deux Hommes en Or et on avait pu jaser. C'est pas moi qui avais fait l'entrevue, mais j'avais été très impressionné par ton aplomb, par ton histoire, par ta résilience. Là, ça doit être une sorte de cauchemar de voir ton agresseur rebondir comme ça dans les manchettes.
C'est pas un cauchemar, c'est une surprise. À la limite, je l'ai presque pris en riant parce que moi, j'y crois pas une seule seconde à sa théorie de dysphorie du genre. J'y crois pas du tout.
Parce que toi, tu l'as connu, tu l'as côtoyé. Raconte aux gens comment tu as rencontré ce gars-là qui finalement s'est avéré un monstre.
Oui, je l'ai rencontré. Il était entraîneur au Pro Gym où je m'entraînais. Il avait été engagé, dans le fond, à sa sortie de prison pour des faits de violence conjugale ou agression sexuelle. Puis rapidement, dans le fond, en moins de 2 mois et demi, il m'avait embarqué avec lui dans son cercle de violence conjugale.
Donc, vous avez commencé à vous fréquenter parce que c'était ton entraîneur, c'est là que tu l'as connu.
Exactement.
OK, on parle de violence conjugale extrême. Sans rentrer dans les détails, raconte au moins comment ça commence une spirale semblable.
Ben ça commence de manière assez subtile parce qu'au départ, il t'isole. Puis, tu sais, maintenant, je suis capable de le raconter en disant qu'il m'a isolée.
Oui.
Mais quand t'es dedans, c'est moins évident. Là. C'est par après que j'ai réalisé qu'il me parlait en mal de mes amis, il parlait en mal de ma famille, il voulait plus que je voie mes amis sans lui. Puis au début, il y avait beaucoup de manipulation. Ça aussi, je le vois vraiment bien maintenant là, que je suis à l'extérieur. Mais c'était beaucoup de manipulation parce que quand j'ai découvert son passé, que je savais pas dès le départ, il me disait, j'ai besoin de toi pour changer, abandonne-moi pas, j'ai vraiment besoin de toi, si tu t'en vas, je vais me suicider. Puis rapidement, les menaces ont été, si tu me dénonces, je te tue.
OK. Là, il y a eu une spirale de coups, une spirale d'isolement. T'as craint, évidemment, puis on comprend pour ta vie. Là, il est arrêté. Il va en prison. On en est où, là? Qu'est-ce qu'il réclame de la Cour?
En fait, aujourd'hui, ça fait un peu plus que 5 ans. En fait, on est au début du processus pour la sentence. Puis la couronne de notre côté, ce qui est demandé, c'est qu'il soit déclaré délinquant dangereux avec peine indéterminée. Puis eux, de leur côté, avec leur psychiatre, ce qu'il demande, la défense, c'est une peine... en fait, c'est qu'il soit déclaré délinquant à contrôler. Avec ben là, avec sa dysphorie de genre, il demande une hormonothérapie. Puis
Comment est-ce que... explique aux gens qui nous écoutent, là, c'est quoi son raisonnement à Matthew Jody Burke? Là, pourquoi est-ce qu'il pense qu'il devrait avoir une peine plus clémente parce que il veut commencer une transition vers le genre féminin?
C'est une excellente question, si je le savais. En fait, ce que je pense, c'est que en nommant la dysphorie du genre, ça vient avec de l'hormonothérapie, puisque le psychiatre prétend, c'est qu'avec l'hormonothérapie, il y aurait moins de risques de récidive, dans le fond. C'est qu'en le déclarant délinquant à contrôler avec une hormonothérapie, il y a moins de chances qu'il récidive.
Penses-tu qu'il bluffe?
Oui, à 100%. Ça fait 2 jours que je suis au palais de justice, puis que je le vois témoigner, puis j'ai cru aucun mot qui est sorti de sa bouche.
Donc, il ferait ça pour convaincre la Cour de donner une sentence plus clémente? Mais une fois qu'il l'aurait, quoi, il déciderait que non, je vais pas changer de sexe?
Ben en fait, non, parce que si jamais le juge impose une période de 10 ans, par exemple, à contrôler avec hormonothérapie, ça va être contrôlé. S'il les prend pas, ses hormones, c'est comme un bris de condition. Fait que s'il va là-dedans, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Moi, ma théorie, c'est la dernière porte de sortie qu'il y avait. Parce que je sais qu'il y a eu d'autres cas pour lui là, de violence conjugale où il a peut-être plaidé qu'il y avait un problème d'alcool, problème de dépendance, mais le la courte période de temps qu'il était avec moi, il était contrôlé, donc il consommait pas, donc il peut pas utiliser cette porte-là. Fait que là, il en essaie une autre.
Et tu dis, j'ai posé la question, est-ce que tu le crois? Je te dis pas du tout.
Non.
Parce que ça s'est vu que des gens décident, là, à l'âge adulte, des fois assez avancé, oups, toute ma vie, j'ai passé ma vie dans mon existence dans le mauvais corps. Dans son cas, tu n'as jamais parlé de ça.
Ah non, jamais, jamais. Là, je pense que c'est une grosse pièce de théâtre qui s'étire. Là, c'est vraiment...
Quand tu vas au tribunal et que tu le vois, qu'est-ce que ça te fait?
Ben, aujourd'hui, c'est la première fois depuis longtemps où... T'sais, j'ai des émotions, là, mais aujourd'hui, j'ai pleuré quand il témoignait, mais de colère. Parce que là, il s'est mis à me demander pardon, puis à me demander d'oublier. Puis c'était la première fois qu'il s'excusait. Puis autant que je les ai attendus, ces excuses-là, depuis 5 ans, sont comme arrivées, mais j'y ai pas cru. Puis c'est comme de la colère de... Arrête de parler, là, ça j'y crois pas. Ton humain, parce que là, il a sorti les larmes, puis selon moi, c'est une stratégie pour... essayer de faire pitié.
Tu as parlé de manipulation tantôt. Oui. La spirale de manipulation qui précède la spirale de violence physique. Pour toi, c'est de la manipulation ce que tu as vu au palais de justice.
C'est de la manipulation ce que j'ai vu au palais de justice. C'est aussi de la manipulation que j'ai vécu, dans le fond, avec lui au départ quand je l'ai rencontré. Hein.
Prenons un pas de recul. Oui. Puis quand on avait jasé sur le plateau de Deux Hommes en Or, je t'avais posé la question. Est-ce que c'est une question légitime? Est-ce que ça se demande à une victime comme toi? Qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut prévenir les autres filles de pas tomber dans ce panneau-là?
C'est une excellente question parce que moi, la première, j'ai toujours dit ça m'arrivera jamais. Puis s'il y en a un qui lève sa main sur moi, je pars au premier coup. Mais c'est tellement pas aussi évident parce que le premier coup, il arrive pas à la première date. Puis quand le premier coup arrive, les menaces de « si tu pars, je te tue » sont déjà là. Moi, il contrôlait mon téléphone là, 24 sur 24. Il savait où j'étais, à qui je parlais, qu'est-ce que je textais. Donc, quand la violence s'est vraiment installée, j'étais totalement sous son emprise.
Parce que de l'extérieur, on peut regarder ça puis se dire au premier coup, les filles devraient s'en aller.
Oui.
Au premier soupçon, les filles devraient s'en aller. Si c'était simple comme ça, les filles qui vivent ça, qui ont vécu ça, s'en iraient.
Ben exactement, mais c'est pas aussi simple.
Qu'est-ce qui est pas simple?
Ben c'est pas simple parce que les menaces de mort, surtout moi, c'était la première fois que je vivais de la violence conjugale, donc j'étais pas, tu sais, j'en avais jamais vécu, j'étais vraiment nouvelle là-dedans, si je peux dire. Puis quand tu te fais dire quotidiennement si tu pars, je te tue, si tu pars, c'est organisé avec telle personne, je vais te faire tuer, ben c'est plate à dire, mais tu restes là. Parce que j'avais peur pour ma vie, j'avais peur d'être tuée, je savais ce que physiquement il était capable. J'avais vraiment peur, puis je me considère intelligente, puis je savais pas comment sortir. J'avais aucune idée. Tu sais, j'ai une bonne famille, j'avais les ressources s'il avait fallu que je me paye un avocat, puis je savais pas comment sortir.
Ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, OK, là, il faut que je parte?
Ça a été deux choses. Vers la fin, la violence était extrême, et c'était beaucoup des coups à la tête, au point où je me suis dit, je vais finir en fauteuil roulant légumes. Puis aussi, c'est que moi, je suis enseignante, l'été approchait, puis je me voyais juste être prisonnière chez nous avec lui. Fait que je me suis dit, il faut que je parte avant l'été, parce que dans le fond, quand j'allais travailler à l'école, j'avais un moment de répit pendant la journée.
Puis entre ce moment-là puis le début des coups, il s'était écoulé combien de temps?
La violence physique a commencé, je dirais, mi-janvier, puis je l'ai fait arrêter le 5 juin. J'ai pris ma décision de le faire arrêter le 30 mai. T'sais, mentalement, là, j'étais prête. Fallait que je trouve la porte de sortie, le comment le faire. Puis le 5 juin, j'ai fin.
C'est une réalité qui est dont on parle de plus en plus, mais c'est toujours surprenant de voir à quel point c'est répandu, à quel point il y a des femmes qui l'ont vécu, des femmes qui le vivent. As-tu des conseils pour les femmes qui sont peut-être dans des relations toxiques comme ça?
Moi, ce que je dis toujours, c'est de partir. Il y en a qui veulent pas porter plainte pour différentes raisons, là, pour les enfants, parce que le processus judiciaire, c'est lourd, mais partez, parce que ça va pas aller mieux, là. Quand la spirale est commencée, tu sais, sûrement qu'elles entendent les belles promesses de je vais changer, je vais aller en thérapie, mais c'est pas vrai, là. Ça peut pas aller mieux. Moi, je leur dis de partir. Il y a vraiment beaucoup de soutien après de la part de la couronne, des enquêteurs, de la CAVAC, de l'IVAC. Il y a vraiment beaucoup de... Elles seront pas seules.
Donc, est-ce que je dois comprendre que tu t'es sentie appuyée par le système?
Oui, totalement. C'est
parce
sûr que je suis chanceuse. Parce que, exactement, oui. C'est ce que j'allais dire. Je suis chanceuse. Je suis tombée avec deux sergents détectives extraordinaires, deux procureurs qui ont vraiment travaillé fort. Puis je me suis vraiment sentie, même jour 1, quand je suis allée porter plainte, les policiers étaient géniaux. Mais j'ai aussi beaucoup de filles qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire « c'est pas le cas pour moi. Je me sens pas appuyée, je me sens pas écoutée. » Donc, je le sais que c'est aussi une réalité. Là. C'est pour ça que je dis C'est pas parfait comme système.
Brigitte Jobin, ton ancien conjoint, Matthew Jody Burke, là, oui, avait déjà été condamné pour violence conjugale à Vancouver.
Oui.
À Edmonton, je pense aussi.
En Ontario, la première fois, en 2005. Oui.
Mais donc, Ontario.
Après ça, dans l'Ouest canadien, puis après ça, à Montréal.
Donc, un peu partout.
Oui.
Et là, tu as suivi ton procès, évidemment. J'imagine que tu as entendu parler de ce qu'il a fait ailleurs.
Oui.
Quel jugement tu portes sur le système de justice et son traitement de ces hommes-là?
Ben, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, j'avais les discussions justement avec le procureur, puis j'ai l'impression qu'on attend qu'il finisse par en tuer une pour là vraiment lui imposer une peine, tu sais, qui a de l'allure selon moi, là, mais on évalue le risque de récidive, puis on vit dans une société où on laisse des chances, je pense, là, mais...
Ben, lui a eu toutes les chances de se reprendre.
Oui, il y a eu des thérapies payées en prison, il y a eu toute l'aide qu'il avait besoin. Puis ça marche pas. La réhabilitation...
Là, ce que la couronne demande, c'est que ce gars-là soit envoyé en prison.
Oui.
Et qu'on détermine un jour une date de sortie s'il le mérite.
Exactement. Ben, peine indéterminée, c'est qu'il serait évalué une première fois après 7 ans. Puis dans le fond, dès qu'il représente un risque de récidive, il reste en dedans. Puis ensuite, il est réévalué tous les 2 ans.
T'es venu ici en studio avec ton chum.
Oui.
Je me demandais, après une mésaventure épouvantable comme ça avec un homme, comment est-ce qu'on recommence à faire confiance?
Je pense que ce qui m'a aidée, c'est que avant cet épisode de violence-là, j'avais pas connu de violence. Dans ma tête, les hommes n'étaient pas tous des batteurs de femmes. Mmh. J'avais déjà ça. Puis quand j'ai rencontré Jean-François, mon chum, c'est pas dur d'être l'opposé de mon bourreau, là, mais c'était en tout point son opposé. Là. Ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble, puis il n'a jamais levé le ton une seule fois. C'est sûr que ça l'a aidé.
Mais au début, quand même, il doit avoir une crainte.
Ah, c'est sûr qu'il y a des craintes. Les premières nuits, il n'était pas le fun. Là. J'étais constamment en train de sursauter. Je lui demandais la permission pour tout. Là. Je lui demandais la permission pour prendre un verre d'eau. Je le textais toujours pour lui dire « je pourrais pas texter la prochaine heure, je vais conduire ». Dans le fond, les comportements que j'avais acquis au cours de ma relation malsaine, c'est sûr qu'au début, ça a été à déconstruire.
C'est un livre très intéressant, « Survivre jusqu'à demain ». C'est un témoignage sur la violence conjugale, la façon de s'en sortir aussi. T'es un bel exemple de résilience.
Merci beaucoup.
Merci, c'est toujours un plaisir de te croiser.
Merci.
Brigitte Jobin, vous avez entendu son histoire. Matthew Jody Burke, son sort est maintenant devant le tribunal. Et ben sa stratégie, c'est de se déclarer femme pour avoir une peine plus clémente. On verra si ça fonctionne.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le sentiment de sécurité qui régnait à Montréal, qui était, ma foi, c'était un peu pour les Montréalais, un peu comme les poissons par rapport à l'eau. On vivait dans ce sentiment de sécurité-là sans jamais en prendre la pleine mesure. Maintenant qu'il y a de la violence armée, maintenant qu'il y a des incidents de fusillade à Montréal presque chaque jour, ben on réalise qu'on prenait ça pour acquis. Ce n'était pas acquis. Sophie Roy est directrice par intérim du service de police de la Ville de Montréal. Elle est au bout du fil. Madame Roy, bonjour.
Monsieur Lagacé, bonjour.
Écoutez, il y a une nouvelle à la une de la presse signée par Daniel Renault. Là, ça a été publié il y a une heure environ, à l'effet que le SPVM va lancer à côté de ce soir une importante opération de visibilité et de répression pour lutter contre les violences armées. On va commencer avec ça. D'abord, est-ce que vous confirmez ça?
En fait, je vous confirme que les effectifs de l'escouade Eclipse sont bonifiés dès ce soir, temporairement, bien entendu, de façon à pouvoir mettre un peu plus de pression sur les éléments criminels là, qui sont à l'origine de la violence armée que l'on vit. Donc, pour nous, le sentiment d'impunité qui est ressenti par les criminels, on veut y mettre un terme. Donc, il y a une façon de le faire, c'est de démontrer notre présence et notre visibilité.
Ça ressemble à quoi une opération de visibilité sur le terrain sur le plancher des vaches?
Bien, sur le plancher des vaches, c'est de s'assurer que, évidemment, on visite l'ensemble des commerces. Ça ne veut pas dire que c'est des commerces qui sont ciblés. mais tout simplement d'être présent dans les bars, dans les quartiers, procéder à des interceptions au niveau de la sécurité routière lorsqu'il y a des infractions. Mais vraiment, c'est dans sa globalité, la mission policière, une présence active.
OK. Autre information de Daniel Renault. Il y aurait la création d'une nouvelle escouade comptant là, une quarantaine de policiers. Il y aurait des discussions avec la ville pour le financement, avec la sécurité publique. Ça, est-ce que vous confirmez ça aussi?
En fait, ce que je vous confirme, c'est qu'il y a un comité d'experts qu'on a mis en place hier pour réfléchir hors des sentiers battus, donc essayer de revoir la structure de travail, les ressources, nos modes de fonctionnement. Évidemment, vous le savez, on est en discussion et en collaboration avec la ville et le ministère pour essayer d'avoir un effort supplémentaire pour la sécurité des citoyens. Fait que oui, présentement, on demande encore un effort à nos troupes, mais on continue d'avoir des discussions avec la ville, les discussions avec le MSP pour essayer de bâtir et de bonifier nos équipes, mais de façon durable.
OK. Il y a beaucoup de policiers qui m'ont parlé de l'importance de mettre de la pression sur certains acteurs du milieu criminel. Expliquez aux gens qui nous écoutent, Madame Roy, vous êtes chef du SPVM par intérim. C'est quoi mettre de la pression concrètement?
Ben, en fait, il faut que les criminels sachent qu'on est présent, qu'on va procéder à des arrestations, qu'on va poursuivre nos enquêtes, qu'on baissera pas les bras, qu'on va être présent et qu'on va participer à tout ce qui est dans le domaine policier pour arriver à nos fins. Donc, bien entendu, ça met de la pression sur le milieu. Il faut que les gens sachent qu'on est présent et qu'on va agir.
Est-ce que ça veut dire que les Montréalais qui marchent dans la rue à partir de ce soir vont voir des policiers assurément à chaque fois qu'on va promener le chien, faire du jogging, aller au dépanneur?
Je peux pas vous promettre qu'il va y avoir un policier à chaque coin de rue, là, mais assurément, nos policiers, de toute façon, depuis que je suis au service de police, je pense que vous avez toujours vu des policiers, là, mais assurément, on va pouvoir, avec des ajouts d'effectifs, si c'est le cas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais on va s'assurer d'être de plus en plus présents. Quartiers, sur nos rues.
Quelle sorte d'effectifs il vous manque?
En fait, la criminalité par la violence par arme à feu, ça passe évidemment par des effectifs policiers, mais c'est au-delà de ça. Donc là, présentement, ce qui nous manque, c'est des patrouilleurs un petit peu plus en visibilité. Au niveau des enquêteurs, bien entendu aussi, on souhaite que nos enquêteurs puissent pouvoir travailler tout ce qui a travaillé dans le milieu des violences par arme à feu, également tout ce qui est au niveau des équipes de soutien. Donc, c'est des représentations que l'on doit faire. Je vous dis pas que on va pouvoir obtenir exactement ce que l'on veut, mais on voudrait à tout le moins tenter de bonifier nos équipes pour la sécurité des citoyens.
En 2016, on a démantelé 4 escouades anti-gang dans les 4 régions de Montréal. C'est 80 enquêteurs qui ont été affectés à d'autres postes. Est-ce qu'on paye pour ça aujourd'hui?
En fait, moi, je suis d'avis que l'expertise ne se perd jamais. Moi, j'ai franchi différentes étapes dans ma carrière. J'ai été en gendarmerie, j'ai été dernièrement aux enquêtes, j'ai vécu différentes et mon expertise demeure. Donc, évidemment, à ce moment-là, et j'étais pas dans le processus décisionnel lorsque c'est arrivé, il y a eu des gestionnaires qui ont eu à s'adapter au milieu, s'adapter à un environnement qui était distinct. Et je pense qu'un service de police va toujours demeurer en mouvement. Fait qu'évidemment, on est en train de se pencher. Comme je vous dis, tout est sur la table. Donc, en ce moment, on réfléchit, on essaie de voir, avec la diversification du crime, on doit se pencher là-dessus puis essayer de voir comment on peut améliorer nos pratiques.
Ben, écoutez, je comprends que l'expertise ne se perd pas, mais elle n'était pas à jour. S'il y a 80 enquêteurs qui étaient affectés aux gangs de rue, qu'on les envoie faire d'autres types de travail de police, ben c'est sûr que leur expertise, disons, va devenir un peu passée date, là.
Ben, en fait, vous savez, au service de police, on travaille pas en silo, là. Donc, quand on travaille, peu importe, comme vous dites, les gangs de rue, les stupéfiants, etc., on s'attend à ce que nos enquêteurs, nos policiers travaillent dans chacun des silos. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que peut-être qu'au niveau du renseignement, ils sont plus à jour, mais ils continuent à garder cette expertise-là.
OK. Les gens le savent peut-être pas, là, c'est une réalité un peu méconnue, mais il y a beaucoup de saisies de drogue qui se font. Il y a beaucoup d'enquêtes qui se font sur la foi d'informateurs qui sont rémunérés par le SPVM. Ça peut aller de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le budget pour ces sources-là, ce sont des sources, il n'est pas aussi grand qu'il a déjà été. Est-ce que c'est vrai?
Moi, ce que je vous dirais, c'est que dans la dernière année, j'étais à la direction des enquêtes criminelles. Des paiements de sources, j'en ai payé, j'en ai signé à toutes les semaines. Et pas des petits paiements, des grandes sources. Il n'y a jamais eu de frein aux paiements de sources au SPVM, en tout cas, pas sous mon règne, je peux vous le dire, et non plus sous le règne de Sylvain Caron. Fait que le budget est là et on continue à travailler avec des sources. C'est une, comme vous le dites, une source de renseignement qui est importante dans nos enquêtes.
Mais est-ce que le budget des sources est aussi grand qu'il y a 10 ans?
Ben, je pourrais pas vous dire, il y a 10 ans, je n'étais pas là il y a 10 ans, mais absolument, ce qui rentre comme information, si un paiement est requis, on va y donner suite.
OK. Madame Plante, la mairesse a dit il y a quelques jours que le SPVM avait un taux de résolution des crimes de 92 %. Il me semble que c'est pas vrai.
En fait, j'ai pas entendu Madame Plante lorsqu'elle a dit ça, mais moi, ce que je peux vous dire, quand on fait référence à un taux de résolution de 92 %, ça se situe au niveau de nos enquêtes par des homicides. Donc, c'est quand même un haut taux de résolution au niveau des homicides. Je crois que c'est dans les dernières années, là, on tourne autour toujours de 90-92.
OK. Madame Roy, la mairesse, Madame Plante, a aussi dit qu'en juin dernier, vous étiez allée à la commission de la sécurité publique là, à l'hôtel de ville et que vous aviez dit aux élus que, je cite ce qu'elle a dit, « les effectifs policiers sont suffisants ». Il me semble, est-ce que vous avez dit ça?
En fait, malheureusement, heureusement pour moi, mais en fait, j'étais à l'extérieur, j'étais en vacances lors de cette commission de sécurité publique-là. Donc, assurément, il y a peut-être un membre de mon équipe qui a avancé que les ressources policières étaient suffisantes pour répondre à la mission de base. Est-ce qu'on peut faire plus avec plus de ressources? Bien entendu.
Mais vous n'étiez pas à cette commission-là?
Je n'étais pas à la commission de sécurité publique.
Mais la mairesse dit que vous l'étiez.
Oui, je comprends. J'imagine qu'il y a eu une erreur sur le nom de la personne. Je peux pas aller plus loin.
Mais vous, est-ce que vous auriez dit au mois de juin que les effectifs policiers sont suffisants?
Moi, ce que je dis, c'est qu'actuellement, évidemment, comme tout bon gestionnaire, on est obligé de gérer avec les effectifs qu'on a. La sécurité de la population n'est pas mise en danger avec le nombre d'effectifs que l'on a. Mais bien entendu, on doit prioriser des activités.
Parfait. Merci beaucoup, Mme Roy.
Merci, M. Lagacé. Au revoir.
À la prochaine. Sophie Roy, directrice par intérim du SPVM. Les pots de tomates, c'est une folie qui existe depuis longtemps. Quand on aime ça, on est passionné. Le principe, c'est d'acheter des tomates italiennes. On passe ça dans une machine et on va expliquer c'est quoi la machine dans quelques instants. On fait cuire ça dans une énorme casserole. On fait ça dehors, 4, pas dans notre cuisine, idéalement. Et après ça, on met ça en pot. Ça a l'air facile. Quand même, c'est une petite infrastructure. Qui de mieux pour nous en parler qu'Elena Faïta, qui est propriétaire de l'école de cuisine Mezzaluna, où elle a initié des milliers de Québécois au plaisir de la cuisine et aussi de la quincaillerie Dante, tout près du marché Jean Talon. Elena, salut.
Salut, Patrick. Merci
de
te m'inviter.
Ben, grand, grand plaisir. Tu sais, il y a des grands chefs à Montréal comme Martin Picard, Vincent Lavallée aussi, qui ont appris à faire des tomates avec toi.
Oui, mais Patrick, je voulais juste te dire, moi, j'avais dit que plus jamais je ferais ça. Ouais. Là, je vais écouter attentivement aujourd'hui parce que monsieur Beauchamp vient de me dire, waouh, je voulais faire ça ce week-end, canner des tomates. Ben, alors, Elena, let's go.
Comme en toute chose, ça prend l'équipement. De quoi on a besoin de faire des tomates?
On a besoin de la petite machine, comme Catherine a dit, qu'elle mettait les tomates en dedans, puis elle pilait ça tout par un. Non, t'as pas besoin de faire ça.
Ça prend la machine à piler les tomates?
Non, ça prend une petite machine de 57 $ seulement, ce qui s'appelle la tic-tac. C'est tout. Puis ça va diviser ta tomate comme il faut. Ça va enlever la peau, les semences, puis ça va te faire le coulis de tomates. Tout ça.
Ça, vous allez m'en vendre une demain.
Oui, je vais t'en donner un comme cadeau.
mais Elena, on va commencer avec le commencement, OK? D'abord, il faut sélectionner les tomates.
Les tomates.
De quel type de tomates on a besoin?
Puis une autre affaire, il faut encourager les producteurs de Québec.
Oui.
C'est les fermiers de Québec, pas les commerçants. Quand on va au marché, il faut voir c'est qui le commerçant puis c'est qui le producteur.
Attends, attends. Au marché Jean Talon, oui, les tomates italiennes oui, sont pas toutes québécoises?
C'est pas toutes des producteurs.
OK.
OK, c'est pas des gens qui ont séminé les tomates, qui ont fait le travail sur leur ferme et tout ça. D'abord, il faut faire attention. Il faut encourager les fermiers.
Oui.
Pourquoi c'est eux qui travaillent.
Oui. OK. Fait qu'on y va avec la tomate. Moi, je l'appelle la tomate italienne.
La tomate italienne. OK. Mais c'est la tomate Romanelli ou Romana.
Oui.
Puis, vous avez aussi la tomate San Marzano.
OK.
Puis, la tomate San Marzano, elle est plus longue. Puis, la Romanello, elle est plus ronde. Elle est toujours longue. Mais elle est belle. Elle est très, très belle. Puis, ça fait une très belle sauce.
Et il faut qu'elle soit mûre.
Mûre. Mais quand on les achète, c'est, les gens, ils ont l'intention de faire ça le samedi ou le dimanche.
Oui.
Pourquoi la fin de semaine plus longue, ça va être la semaine prochaine, oui, là, que les gens, ils ont temps. Il faut se préparer 4 jours avant. Acheter les tomates 4 jours avant.
On ne va pas acheter ça le matin où on les fait.
Ben non. Il faut les laisser à terre, dans la maison, dans un garage, comme les Italiens faisaient avant. Dans leur garage, il n'y avait pas l'auto, il y avait des tomates. Tout okay, le mois de août, là.
On achète ça dans... les gros paniers, on appelle ça des mannes.
Les mannes.
Une manne.
Une manne, c'est 50 livres.
Oui. Ça donne
puis combien de temps? 50 livres de tomates, ça va faire 1 litre. 12 litres.
12 litres.
Okay, ça réduit.
12 à 14 litres.
Ça réduit, là.
Oui, oui, ça okay, réduit.
L'autre étape, faut enlever faut enlever le petit bout, là, wow, qui était attaché à la vigne. On le coupe.
Non, t'as pas besoin de faire rien. T'as ta tomate, tu la laves, tu la coupes. Ça fait rien. Quelle machine tu utilises? Oh, la électrique, oh, la tic-tac.
OK.
Ça fait rien, t'enlèves rien du tout. La seule chose à faire, c'est de les laver, de les couper, puis passer à la machine.
On la met dans la machine et là, la pulpe va sortir.
La pulpe va partir d'un côté, puis le coulis de la tomate va sortir de l'autre côté.
Okay.
Mon invention à moi...
Est-ce que les graines restent ou les graines...
Non, les graines s'en vont aussi avec la pelure.
Tout ça, c'est trié. D'accord.
Mais on fait d'autres choses avec ça, là. On jette rien, hein. On jette rien, rien, rien du tout.
On fait quoi, je suis curieuse?
Ben, quand c'est sec, la peau est sec, on peut les mettre sur un peu un tôle à biscuit, sur le papier parchemin, mettre un peu de sel, mettre un peu d'huile, puis faire sécher ça tranquillement.
Ah, oui.
Là, tu vas avoir des tout petites, comme des chips. Puis ça, c'est très bon quand tu fais des salades, tu sers, tu l'utilises.
On fait des tomates séchées, finalement.
Ben, c'est la pelure, vraiment. Mm-hmm. C'est pas la tomate séchée elle-même. Mm. Ouais.
OK, là, la pulpe, on va la mettre dans une grande cuve.
Oui.
On va la faire réduire.
Réduire. Réduire pour 1 heure et demie à 2 heures. Ça dépend de la quantité. Moi, 4 mannes, ça veut dire 4 mannes, j'ai fait cuire 1 heure et demie.
Okay.
Pourquoi? C'est un grand chaudron qui va te faire 60 litres. Il faut, la première manne que toi tu passes, il faut la faire chauffer tout de suite. Pas attendre que le chaudron est plein.
Okay.
Pourquoi? Si le chaudron est plein, ça va prendre 3 heures avant que ça boue.
Évidemment.
Pourquoi il y en a beaucoup?
Ouais.
Ben, si tu commences quand il y en a moins, puis comme tu passes les tomates, t'ajoutes.
Ouais.
Puis une fois que tu as passé ça dans la machine électrique, quand tu fais une grosse quantité, pas pour toi, Catherine, tu vas en faire une petite quantité. Il y a deux manières de le faire.
Moi, je suis un bébé.
Quand tu le fais dans la grosse machine, tout ce qui est... On dit que ce qui est pas bon, mais c'est la pelure et la semence, il faut la repasser dans la tic-tac.
Pour aller chercher encore plus de pelure.
Plus de choses, plus de coulis.
Oui.
Puis ça, c'est ma invention. Pourquoi avant, je voyais le monde jeter tout ce qui était bon, mais il y avait encore du poulpe de la tomate.
Elena, parallèlement à la cuisson, il faut qu'on stérilise les pots.
Oui,
comment
stérilise
on fait
ça? Les pots, on les lave le soir avant, on se prépare le soir avant, on lave la basilic le soir avant. Puis les pots, une fois que la sauce a cuit, vous avez le temps d'allumer le four à 250, 275, mettre les pots couchés à terre, ouverture avant. Puis il y a 12 sur une grille, 12 de l'autre grille, ça prend 24 pots.
OK.
Il y en a puis qui là, disent ils vont qu'il faut chauffer. Que ça bouille. Il y en a qui disent qu'il faut que ça bouille absolument dans l'eau
non,
bouillante.
Non, c'est pas vrai ça, non. Okay.
Ça peut être puis, juste par la chaleur.
C'est ça, la chaleur. Quand les pots sont chauds, La sauce est chaude. Là, vous commencez à canner, puis vous les remettez dans la boîte. Une fois que vous êtes fini de canner, prenez vos couvertes. Oui, vas-y.
Mais combien de temps on laisse les pots maçons dans le four?
Oh, ça peut être 20 minutes à 25 minutes.
Ça va pas casser.
Non, ça va pas casser. Ça peut rester là 1 heure et demie à la chaleur 250.
OK, puis après ça, on peut pas les prendre. Évidemment, c'est chaud avec nos mains, mais même quand ils sont rendus tièdes, faut pas qu'il y ait de contact avec la peau.
C'est très important qu'on peut pas les toucher avec nos mains. Il faut les prendre avec les pinces.
À cause des bactéries.
Pourquoi? Oui. Quand on les touche avec nos mains, ils sont pas assez chauds.
OK.
OK? Puis, pour les faire qu'il n'y a pas d'accident qui arrive, on prend un liche-frite qui est en acier, on met 4 pots là-dedans, on met la basilic. S'il y a un accident, ça peut arriver, oui. Un pot peut casser.
Oui.
Ça peut arriver, hein? Je dis pas non, là. Puis, on remplit les pots, on nettoie bien le bar, puis là, on stérilise. À dernière minute, on stérilise les couverts.
À dernière minute, on fait ça?
Oui. Puis on les met sur le linge à vaisselle.
OK. Puis là, on tourne un coup, puis on revient.
On tourne un coup très fort pour donner la forme à le caoutchouc de le lid.
OK.
On rerouvre, puis on ferme jusqu'à la vis finie.
Sans trop serrer.
Non.
Quand est-ce qu'on sait que ça a été bien stérilisé?
OK. Bien stérilisé, c'est en dessous les couvertes, puis ça reste chaud 24 heures.
OK, parce que là, on le met par-dessus les couvertures.
Exact.
En dessous des couvertures.
Après les 24 heures, c'est les pots sont encore chauds. Vous avez réussi, puis tu vas attendre le clic-cloc, là.
C'est ça.
Qui se fait. Le clic, 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 clic. En dessous les couvertes, vous allez attendre. Puis quand tu les touches 24 heures après, il faut tester que tout a été bloqué comme il faut. Puis tu les laisses en dessous les couverts.
C'est quoi le signe que...
Ben, c'est le couvert qui va aller, il va descendre.
OK.
Il va pas rester gonflé.
S'il reste gonflé, on peut pas le manger.
Non, tu peux le manger, oui,
mais
oui,
tout
oui.
De suite.
Pourquoi c'est encore chaud, puis tu peux le refaire encore.
Elena, c'est bon combien de temps après ça, une fois qu'on l'a bien conservé?
Un an et demi.
Un an et demi?
Oui, moi je n'ai encore de l'année passée.
Wow.
Oui, c'est bon. Il faut comprendre que beaucoup de personnes mettent du sel et du citron pour les conserver. Pourquoi ils pensent? Ben, la tomate est très acide. Quand vous avez 4.6 pH, on est correct. Puis moi, j'ai testé mes pots, c'est 4.5. Puis on est correct. Avec pH. Il y a assez d'acide pour les conserver.
T'as fait tes tomates lundi?
Oui.
T'en as fait combien?
J'en ai fait 48 pots.
Donc, c'est 200 livres de tomates, ça.
Oui, 200 livres de tomates.
4 mandes de 50 livres.
Oui, mais garde.
Ça vous dure combien
de
temps?
Je ne vais pas dire mon âge, là, mais ça fait peut-être 60 ans que je fais des tomates.
Oui, oui.
D'abord, je suis sûre de mon coup, puis je suis très rapide. Quand tu es bien équipé, là, tu n'as pas besoin...
Ça, c'est un point important, Elena, l'équipement.
Oui, l'équipement, c'est très important. Puis pas beaucoup de vin quand vous faites les tomates.
Patrick, il y a une année, il avait bu du vin en faisant ses tomates, puis je pense qu'il est allé faire une sieste un moment donné pendant la cuvée de tomates.
Il s'était trompé, il s'est réveillé, il avait bu les tomates, puis il avait encané le vin.
Il avait canné le vin.
Mais j'invite le monde à aller voir notre site à Dante. Pourquoi? Moi, j'ai des tomates en coulis, j'ai des tomates en dés, qu'on stérilise les pots avec la tomate. J'ai des tomates vertes que personne pense, une marinade.
J'adore ça.
J'ai des tomates vertes avec des poivrons. Il y a bien des choses qu'on peut faire.
Ça, Elena, c'est sur le site de Mezza Luna.
Non, c'est dans le site de Dante.
OK, de la quincaillerie
Dante. De la quincaillerie Dante.
Parfait.
Entre recettes.
Parce qu'il y a aussi une vidéo où...
Oui, moi, je montre comment faire.
Puis moi, je l'ai suivi.
Ah, good.
Très utile.
Good.
Et sur le site, je suis dessus en ce moment de la quincaillerie Dante. Vous avez aussi votre fameuse machine tic-tac que vous parliez.
Oui,
là.
Exact.
Et puis, c'est pas cher, là. C'est 65.
Non, c'est 57 $.
OK, petite pause, Elena. On vous garde. On te garde. J'ai fini de te vous voyez, on te garde et on va poursuivre la conversation sur le canage de tomates après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant.
Avec Patrick Lagacé.
Votre point de repère.
C'est la saison des tomates, c'est-à-dire que c'est le temps d'empoter des tomates pour vous faire des bases de sauce. Elena Fajita a enseigné à des générations de Québécois comment faire les tomates. Elena, je le souligne, sur le site de la quincaillerie Dante, D-A-N-T-E, on peut, il y a une vidéo YouTube qui montre de A à Z comment faire ça. C'est très bien fait. Mm-hmm. Une fois qu'on a nos pots, puis là, on les...
C'est moi... pas bien fait.
Non, non, mais...
C'est moi-même et une de mes filles qui ont fait ça.
Non, attends une minute.
L'année prochaine, je vais en faire un vraiment professionnel.
OK, ben regarde, c'est vrai que c'est une image fixe sur toi, mais toutes les infos sont là, ma belle Elena. Une fois qu'on a nos pots, d'abord, on les rationne parce qu'on veut pas les utiliser tout de suite. On veut pas en manquer au mois de février.
Hein?
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
On fait toutes sortes de sauces.
Comme?
Comme sauce à la bolognaise. Sauce avec des anchois, avec toutes sortes de viandes. On peut mettre ça sur la pizza, réduire, puis le faire pour la pizza. Pourquoi? Si tu prends le coulis comme ça sur une pizza, ça va trop mouiller. D'abord, il faut la réduire, qu'elle vient très épaisse pour mettre un peu sur la pizza. On peut faire tant de choses. Mais on peut faire aussi, ça c'est un coulis, on peut faire aussi des tomates en dés, que c'est le fun de faire. D'abord, les tomates séchées. Oh, c'est ma médaille d'or, mes tomates séchées.
OK, tu fais sécher ça.
Oui. On peut faire différentes choses, un peu de chaque, mais on a des choses qu'on peut faire tant de choses avec. Mais la meilleure sauce, c'est la sauce l'ail et basilic. Il n'y a pas mieux. Moi, j'ai été demandé beaucoup de fois, en télévision, à radio, « Elena, c'est quoi ta sauce préférée? » Moi, c'est toujours le base.
C'est la base.
La base.
La cuisine italienne, ils disent c'est... un ou deux ingrédients, mais des bons ingrédients.
Exact.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle une sauce pomodoro?
Oui, la salsa al pomodoro.
Puis quand tu vas dans un restaurant, tu m'as déjà dit ça, pour toi, c'est un test.
Oui. Oui, c'est un test, c'est le chef sait faire. C'est, il y a 4 ingrédients dans sa sauce, pour moi, c'est un bon chef. C'est, il y a 100 000 épices en dedans, puis il veut cacher qu'est-ce qu'il y a.
Mais non, ça,
pour
ça
moi,
marche
non.
Pas.
Non.
Le signe d'une mauvaise sauce, c'est quoi?
C'est avoir beaucoup d'épices en dedans, puis beaucoup des oignons
qu'est-ce
en dedans.
Qu'est-ce qu'on essaye de cacher dans ce temps-là?
Il cache le doux dans la tomate. Tu veux une sauce à la tomate? D'abord, il faut goûter la tomate.
Ouais.
Pas les autres épices en dedans. L'orégano, il met l'orégano. Puis le poivre. Le poivre.
Toi, quand tu fais
c'est
cette sauce-là, tu mets quoi?
Une affaire qui va pas avec la tomate, c'est les poivres. Quand tu fais une
poivre.
Sauce à la tomate, il n'y a pas de poivre
mais
en dedans.
Mais jamais d'oignon dans la sauce tomate? Jamais,
non,
jamais,
tu
jamais.
Peux faire une autre là, aux légumes. Tu mets les carottes, le céleri, les oignons et l'ail. Mais une sauce tomate, un vrai sauce tomate, il n'y a pas des oignons.
Mais, okay. Mais vous, je veux savoir tout ça, là. C'est votre mère, votre grand-mère qui vous l'a appris?
Ma mère, puis quand tu vas en Italie dans les gros, mm-hmm. gros restaurants, pas même les restaurateurs, dans les maisons, on voit les madames ou les messieurs qui font leur sauce, puis c'est toujours comme
fait
ça.
Ça se passe de génération en
génération. En génération. Ouais.
Elena, l'école de cuisine, ton école de cuisine, Mezza Luna, là,
oui.
Y a des, moi, j'ai suivi des cours
ouais.
De sauce. J'ai appris les tomates, j'ai appris les sauces plus crémeuses, etc. avec toi. Là, avec la pandémie, ça a été suspendu. Il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que tu vas repartir l'école?
Je vais repartir tranquillement avec peu de cours, par exemple. Pourquoi j'ai beaucoup de demandes, ça, c'est vrai. Peut-être au mois de novembre, je vais recommencer. Mais pas comme avant. Avant, je donnais 6 cours par semaine, puis là, je peux pas. C'est comme tout dit, il faut penser à la retraite. Je suis pas prête pour la retraite à 100%, mais je veux reculer un peu, penser à moi-même
profiter
aussi.
Profiter un peu.
Comme
oui,
un cours de
oui.
groupe, là, tu sais, je sais pas, nous, on est 10, là, dans l'équipe.
Oui, 10, c'est correct.
Puis avant, on vous loue pour un après-midi.
Avant,
ça se peut-tu,
avant
ça?
Je faisais des groupes de 24 okay. par soir. C'était comme recevoir 24 personnes à chaque soir. Ouais, mais c'était le plaisir. Moi, ça me manque beaucoup, ça, là.
Je pourrais avoir suivi les cours. Ce qui est fascinant, Catherine et MC, c'est, tu sais, Elena est là avec son assistante, enseigne tout ça. C'est comme si les gens étaient devant Mick Jagger. T'as un charisme incroyable quand tu enseignes la cuisine. Ah oui. Les gens sont subjugués.
D'ailleurs, je la ramène à la maison ce soir.
Mais
un kidnapping.
Non.
Elena, t'as dit que.
Merci,
bon,
Patrick.
Plaisir. T'as dit que quand l'école Media Luna va repartir ses activités, il y aura moins de cours. Quel cours tu vas garder?
Les pâtes, c'est sûr et certain. Pourquoi les pâtes, c'est mon.
Fabriquer des pâtes.
Pâtes, c'est sûr et certain. Il va avoir les cours toutes de base. Il va avoir les saucisses, comment faire les saucisses aussi pour les gens. Mais il va avoir d'autres cours dans la cuisine, des repas, les repas complets de chaque région de l'Italie. Pourquoi j'avais des très bons cours. Mais avant, j'avais une quarantaine de cours. Je peux pas toutes les donner, mais je vais donner des, comme une madame a entré dans le magasin aujourd'hui, puis elle, ça fait les 2 ans et demi qu'elle attend. Elle m'a dit, Elena, je veux un cours de viande. Moi, je veux seulement de la viande. Mm. Puis là, j'ai compris ce qu'elle veut, mais je veux dire, je vais le faire pour le faire plaisir. Pourquoi moi, je peux pas? Ça m'enlève mon caractère de pas faire plaisir au monde, moi. Il faut que je fasse plaisir au monde. J'aime ça quand je fais plaisir au monde.
Et votre fils fait des sauces, mais des sauces commerciales.
Oui, est-ce que mais ils sont très bonnes.
Ouais, mais c'est ça. Êtes-vous le test de goût? Parce que là, il arrive avec sa sauce tomate en épicerie. Quand vous goûtez, ça peut pas fonctionner. Pareil comme la façon artisanale.
Mais Catherine, ça arrête pas. Pourquoi? La majorité, c'est pas tout le Québec qui fait les sauces. Stéphano, quand on faisait la démo au marché Jean Talon, je vais te dire, moi je faisais le démo comment faire les sauces, puis comment faire les pâtes. Les gens là, c'était toujours plein. Ça amenait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes me demandaient, Léna, tu les vends-tu? Puis moi je dis non, je suis ici pour vous apprendre. Mon fils, la première chose qu'il m'a dit, il dit non, ma, on va produire les tomates. Puis moi j'ai dit ben toi. Oh,
Toi
produis les tomates, puis moi, je vais encore enseignant. Ça n'arrête pas une à l'autre. Pourquoi sur le marché, il y a une tonne de qualité.
On vous aime,
mais j'ai juste dit une chose à mon fils. Si tu les fais, fais les meilleurs.
Ben, bravo!
Merci, Elena Fajita. Merci, on va te voir à la quincaillerie Dante. Lab École, vous le savez, c'est un projet d'école moderne repensé par 3 personnes bien connues au Québec. Pierre Lavoie, spécialiste de l'activité physique. Ricardo Larrivé, spécialiste de l'alimentation. Et Pierre Thibault, un de nos grands architectes. C'est un projet aussi controversé. Il y a beaucoup de profs qui ont mal réagi quand ce projet-là a été annoncé, ce projet des écoles Lab École. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui tombent en ruine au Québec et il y a des profs qui trouvaient ça un peu indécent. Mais quand même, le résultat est absolument spectaculaire. Et aujourd'hui, dans le quartier Limoilou à Québec, l'école primaire Stadacona a ouvert ses portes. C'est un lab école. Pierre Thibault est avec nous. Monsieur Thibault, bonjour.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce qui vous rend fier avec cette école-là?
Ben écoutez, là, je suis dans l'école actuellement. Là, c'est la visite des parents avec les enfants cet après-midi. Alors, je parle aux parents, aux enfants. Tout le monde a le sourire. J'étais sur les toits parce que les toits servent de cours. Il y a une fille qui me montre. Moi, j'habite de chaque côté. Je peux envoyer la main à ma mère depuis la maison. J'ai une nouvelle cour de récréation. Je suis tellement contente. Donc, écoutez, j'avais vu ces sourires-là dans les belles écoles à l'étranger. Je les vois ici chez nous maintenant. Je vous dirais que je suis très, très content. Les professeurs, la direction. Donc, c'est là qu'on voit qu'un environnement bienveillant, avec un contact avec la nature, la lumière naturelle, je veux dire, une acoustique aussi extrêmement agréable qui fait qu'on n'a pas de réverbération. Donc, les gens qui ont dit on n'a pas le goût de partir, ou l'autre, ce que j'entends, c'est dire ben je pense que je retournerai à l'école. Alors, un milieu de vie comme ça, c'est quand même assez unique.
Est-ce que pour vous inspirer, Pierre Thibault, êtes-vous entré dans des écoles régulières au Québec qui sont loin d'être comme l'école Stadacona, là, si je juge par les photos?
Écoutez, ça fait déjà 5 ans que tous les trois, on en repense de Québec. Et Ricardo, je trouve, avait une bonne phrase, il dit Pierre, Tous les morceaux de la meilleure école existent au Québec, mais ils sont disséminés partout. On n'a pas réussi. Ils disent comme si on prenait tous les bons ingrédients puis on finissait par nous à les rassembler. Donc, c'est ça qu'on a fait. Personnellement, j'en ai visité près de 75. Pierre Lavoie a dépassé le 100. Alors, à nous trois, là, on a probablement visité 250 écoles. Et parmi les cotations, même celles dans les milieux les plus défavorisés. Donc, effectivement, on a vu toutes les écoles. Donc, certains comme me disaient, ben écoutez, pourquoi on fait des écoles comme ça par rapport à réparer? Je pense qu'il faut réparer toutes les écoles. Mais c'est comme dans une classe, on peut pas dire on va s'occuper juste des moins bons parce que les meilleurs, ben ils vont être capables de s'occuper tout seuls. Donc, je veux dire, il faut, dans une société, donner l'exemple puis montrer ce qu'on est capable de faire. Puis ce qu'on va faire aussi, qui est, je pense, unique, c'est que déjà avec cette école-là puis avec toutes les écoles, on a 5 universités, des groupes de chercheurs, dont 2 européens, qui vont évaluer la réussite éducative des enfants et quelles sont les répercussions d'un espace, d'un milieu de vie bienveillant sur eux pour faire en sorte que leur résultat et leur sera meilleur. Donc, je pense que ce qu'on veut au-delà, c'est pour ça qu'on tenait tant à construire des écoles puis plusieurs, c'est pouvoir mesurer l'impact positif sur les professeurs, sur les enseignants, sur la communauté. Là.
Faire du beau, est-ce que ça coûte plus cher? J'imagine que oui. Si oui, ça coûte combien plus cher?
En fait, je dirais faire du beau, c'est pas vraiment... Je pense que c'est la créativité, je pense, de l'équipe qui fait la différence. Ce qu'on a demandé quand on est allé tous les trois, c'est qu'on s'est dit, on a visité des écoles, on a fait des comparables, on a regardé, puis... Ce qui manque, c'est un peu de superficie. On a demandé, en commençant, 1 mètre carré de plus par élève, 1 mètre pour manger, 1 mètre pour bouger, puis 1 mètre pour collaborer. Les écoles du Québec, quand elles ont été créées, là, pour la plupart, les enfants allaient manger à la maison, mais il n'y avait pas d'espace pour manger. Aujourd'hui, on sait que la collaboration, c'est indispensable dans la formation de l'enfant. Et ça n'était pas là. Puis les espaces pour bouger étaient à peu près inexistants.
Mais M. Thibault, je m'excuse de vous interrompre, mais je reviens à ma question. T'sais, vous êtes architecte, dans un projet, vous devez tenir compte des coûts, évidemment, mais une école, lab école, c'est plus cher qu'une école régulière, non?
Oui, ben, oui, je vous dirais, on parle peut-être de 10%, parce que ce qu'on veut tester, c'est qu'on a plus d'espace. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, le plus d'espace fait que le coût au mètre carré est équivalent aux écoles qu'on fait actuellement. Okay. Là, donc, mais c'est parce qu'on a, c'est ça qu'on veut tester. On veut tester, on va dire, est-ce que le fait d'avoir ajouté ces mètres carrés-là supplémentaires vont avoir l'effet espéré? Donc, on a maintenant des ruelles d'apprentissage qui permettent des espaces de gradins pour que des présentations, on a des grands îlots pour préparer la cuisine. Donc, des espaces qui n'existaient pas dans l'école. Donc, l'élève, on a une classe extérieure sur les toits. On a des vues magnifiques sur toute la canopée de Limoilou. C'est sûr que l'élève, dans une ruelle d'apprentissage, ben, il peut être dans la classe, il peut être dans la ruelle d'apprentissage. Le professeur est là, il peut collaborer avec une autre classe. Donc, pour une nouvelle pédagogie différenciée, ben, c'est tout ça. On a aussi imaginé du mobilier. Et le mobilier qu'on a repensé, ce ne sera pas juste pour les écoles de la Bécole, ça va être pour toutes les écoles du Québec. On a 4 publications, à peu près 2000 pages pour repenser chacun des espaces. Tout ce qu'on fait, on veut le transmettre. On a déjà une incidence très grande sur les autres écoles qui sont pas à la Bécole, qui sont en train de se construire au Québec. Donc, ce qu'on voulait, c'est tirer tout le monde vers le haut pour dire, ben, ça, comme société, la différence de coût, il y aura tellement moins de burn-out, tellement moins de décrochage, tellement moins de maladies, que cet investissement-là, il faut le voir vraiment comme une plus-value sociétale. C'est ça qu'on veut démontrer, et c'est ce qui est possible déjà de voir dans certaines zones de société, mais je pense qu'on est rendu là au Québec. Alors, c'est notre engagement, tous les trois, bénévolement depuis 5 ans pour essayer de... Alors, le résultat aujourd'hui, je pense, est probant. J'avais vu des images. Alors,
oh, c'est magnifique. Dis, c'est, vraiment.
C'est un bonheur de... classe extérieure, on voit le Parlement jusqu'au Mont-Saint-Anne avec tous ces arbres autour de soi. Je veux dire, c'est Pierre, un bonheur.
Monsieur Thibault, je l'ai dit tantôt, là, puis c'est bien connu, vous êtes un de nos grands architectes. Vous m'avez dit avoir visité 75 écoles au Québec. Il y en a qui sont laides. Il y en a beaucoup qui ont l'air d'avoir été conçus par l'architecte personnel de Staline. C'est des bunkers. C'est laid.
Vous avez raison.
Écoutez, qu'est-ce qui fait qu'on a accepté de construire des laideurs semblables, vous pensez?
Écoutez, moi, écoutez, c'est pas pour rien que je me suis engagé bénévolement pendant 5 ans. J'ai mis des milliers d'heures de ma vie là-dedans. Je trouvais ça inacceptable. Et c'est là que ce qui est un peu incroyable, c'est que le programme de l'école n'avait pas changé depuis 50 ans. C'est-à-dire, les deux pages de c'est quoi une école, ça n'avait pas changé depuis 50 ans. Je me dis, c'est qu'à un moment donné, il arrive qu'il y a un peu d'immobilisme, il y a une espèce de tunnel, puis le monde est dans le tunnel, puis je voyais des gens, ouais, mais qui va le changer? Comment? Tu sais, alors, c'est pour ça que d'avoir des gens qui arrivent de l'extérieur avec, on dit, là, le maire de Québec disait, écoutez, ils avaient cassé la glace, là, tu sais, les trois, là, donc, on a dit, parce que, il y en avait des gens qui voulaient changer comme nous et tout, mais à un moment donné, on dit, on donne un souffle, puis on a eu des gens, on est allé au ministère, on est arrivé au bon moment, on a cogné à la porte, on a dit, écoutez, nous, là, on va créer ce vent de changement-là. Et c'est, je pense, l'agilité, c'est pour ça qu'on a créé un laboratoire, puis on est encore là pour comparer, pour accompagner les autres écoles, pour guider aussi les gens dans l'utilisation de ces nouveaux espaces et tout. C'est là qu'on voit qu'une petite structure comme un lab école, ça peut changer vraiment toute une façon de faire. Ce qui arrive aussi, c'est que des institutions, puis je veux pas les critiquer nécessairement, mais c'est pas des lieux d'innovation. Hein, à un moment donné, on finit, qu'on a une recette, puis on fait un peu du même. Là. C'est difficile dans une grande institution de changer les choses, même si, je dirais, il y a des acteurs qui veulent le faire, tandis qu'en arrivant de l'extérieur avec beaucoup d'agilité puis de la conviction, je pense qu'on a peut-être plus de facilité à amener les gens sur nous, sur de nouvelles rails, sur de nouveaux chemins. Là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis félicitations, c'est un très, très beau résultat. Espérons que ça va susciter des vocations un peu partout au Québec.
On le souhaite alors. Bonne fin de journée. Au plaisir.
Pierre Thibault du Lab École. Si vous pouvez voir les images, c'est magnifique. Je sais, chaque fois que je parle du Lab École, chaque fois qu'on parle du Lab École, il y a des profs qui sont vraiment, vraiment fâchés parce qu'il y a beaucoup de profs au Québec qui vivent des réalités assez épouvantables dans des écoles très, très laides et qui tombent en pièces. C'est vrai. Mais je l'ai dit à la fin de l'entrevue avec M. Thibault, espérons que ça puisse inspirer des vocations, qu'on arrête de se concentrer sur toujours construire à des laideurs. Les enfants, ça finit par avoir un impact. Je pense à une école secondaire à Montréal, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. C'est un vieux building qui date de 50, 60 ans. Il n'y a pas de fenêtre. Je sais pas c'est qui a pensé à ça un jour.
Il y a rien qui ressemble plus à un pénitencier qu'une polyvalente.
Mais même, moi, j'ai des amis profs qui, finalement, tu sais, on a développé des roulottes pour que les enfants puissent se retrouver
plus de place,
quand il y avait plus de place, puis on disait, on aime mieux les roulottes. Il y a de la clim, il y a des fenêtres. C'est plus agréable qu'à l'école.
L'école au cœur de nos priorités.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.